voitures les thermiques, terrasses.
Ça va être les voitures électriques.
En fait, avec,
on peut
le
plus
tabac,
vivre, en fait.
Avec le tabac, on a un problème. C'est très dur de faire arrêter un fumeur de fumer car il est addict. En revanche, c'est assez facile de ne pas faire démarrer un non-fumeur. Et donc, le prix, effectivement, acheter un paquet 15 euros, c'est dissuasif quand on n'a jamais fumé de sa vie. On n'a peut-être pas envie de mettre 15 euros là-dedans. Donc, on doit continuer.
Mais non, factuellement, puisque les gens les achètent ailleurs.
Oui, sauf que les non-fumeurs, ils ne vont pas aller en Espagne s'acheter des clopes s'ils ne fument pas. C'est les fumeurs qui vont faire ça. Donc, Emmanuel et la salle de Philippe Maurice.
Non, mais la question est de savoir, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que fumer, c'est mauvais pour la santé, et que moins on fume, tant mieux on se porte. Mais néanmoins, est-ce que c'est la bonne stratégie? Parce que selon cette étude, finalement, on contourne le prix élevé et avec le risque qu'on aille vers des produits illégaux, c'est-à-dire de mauvais produits.
Voilà, parce que
encore pire que ce qu'on fume.
Moi, j'ai entendu dire
des fausses cigarettes.
Moi, j'ai entendu dire que les paquets qu'on vend à la sortie des métros,
voilà,
etc.,
on n'est pas sûr de...
c'est des produits avec en plus des produits chimiques. C'est pas des vrais, entre guillemets, des vraies cigarettes pourries. C'est des cigarettes encore plus pourries. Donc, bon, déjà que la cigarette, c'est pourri, bon, moi, je fume pas. Hein, donc, moi, ça m'inquiète. Mais par ailleurs, je crois qu'il a été relevé quand même que globalement, il y a quand même une baisse de la consommation de tabac dans l'ensemble, dans les pays occidentaux, aux États-Unis encore plus drastique qu'ici. Donc, il y a quand même une efficacité à la, aux entraves à la cigarette. Le prix en fait partie. Ça a un effet puisqu'il y a moins de gens qui fument. Maintenant, effectivement, ceux qui veulent continuer à fumer parce qu'ils sont complètement intoxiqués et qu'il n'y a toujours pas assez de médecins qui peuvent recevoir les gens qui veulent arrêter de fumer pour les aider à sortir de cette addiction terrible. Parce que moi, je suis complètement sur la ligne de Flora. Il faut quand même voir les troubles de santé que ça produit et le coût social que ça a. Parce que moi, je suis navrée. Moi, je ne fume pas. Je ne fume pas, je ne bois pas. D'accord?
Mais moi, je dois payer. On a le droit de boire, on a le droit de fumer.
Tout à fait. Non, mais boire et fumer, ok. Mais pourquoi est-ce que moi, quand je paye ma sécu, je dois payer pour ceux qui boivent et qui fument?
Dans ce cas-là, tu manges pas de beurre, tu manges pas de
hygiéniste, ça.
Oui, mais alors attention à ce discours hygiéniste.
Alors,
parce que dans ce cas-là, bientôt seront uniquement.
Je suis pour un malus pour les gens qui
fument. Ah, mais moi, je suis pour que. Pas de sucre, pas de beurre.
Moi, je suis pour que les gens qui ont été consultés pour des problèmes de liés au tabac, à la consommation de tabac et d'alcool. Et qu'ils ne veulent pas écouter, qu'ils sont intoxiqués, on devrait leur mettre un malus. Je suis désolée.
En toute détente, je vous dis ça, de manière amicale, tant Flora que Barbara. Vous êtes contre le tabac, toi tu es contre l'alcool, semble-t-il.
Je
vous dis ça, c'est pas une attaque personnelle. Je crois que vous êtes contre la viande. Mais moi, je suis pour l'ensemble de ce que je viens de citer.
Tu pour la viande. Pour toi. Bah, non, t'empêche pas. Oui, moi, je ne t'empêche pas.
Si,
ni
tu veux
de
le pénaliser, tu veux un malus.
Eh ben oui, je veux un malus parce que lui, il s'expose à des risques auxquels moi, je ne m'expose pas. Par contre, moi, je dois payer les conséquences de ces risques à lui.
C'est très dangereux ce discours. Parce que par rapport à la santé, tu sais très bien que on n'est pas dans un système égalitaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont peut-être même d'ailleurs consommer de la viande, manger et se porter bien jusqu'à 100 ans. D'autres qui n'ont rien fait de tout ça, mais qui ont des problèmes génétiques. Alors, ceux-là, ils nous coûtent plus cher aussi.
Tu vas pas avoir un cancer du poumon sans être fumeuse, ça j'en suis bien conscient. Mais celui qui a un cancer du poumon parce qu'il a fumé toute sa vie, qu'on lui a dit toute sa vie, faut ralentir, faut arrêter, etc., qu'il ne l'a pas fait, bien sûr qu'il faudra lui rembourser à 100% ses traitements et qu'il faut le soigner, qu'il faut le guérir, mais je pense au niveau de sa mutuelle, on peut lui mettre un malus. Excusez-moi.
Barbara, je précise que je ne suis pas hostile au fait que toi, Flora, et toi, Barbara, soyez végétarienne, parce que vous êtes végétarienne, mais moi, je suis pas végétarien. Et qu'on ne vienne pas m'emmerder.
Voilà, c'est le respect de chacun.
Obligé à être vegan, non, mais c'est avoir tellement d'arguments sur la question du tabac que Emmanuel nous parle de viande.
Voilà, il y a un économiste qui a calculé le coût du tabac en fait en France, direct, indirect. Alors c'est chiffré à 150 milliards et si tu le ramènes au coût par habitant, si tu veux le tabac, ça coûte 2300 euros. Par habitant quand tu regardes ensuite la sécurité sociale, les soins, etc. Ce qu'il y a, c'est que là, ce qui commence à fausser la donne, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on arrivait par rapport à l'achat des paquets de cigarettes, puisque l'État prend des taxes dessus, de savoir en volume si les Français fumaient plus ou moins.
Eh oui,
on nous dit que les Français... Et voilà, maintenant il y a un doute.
Cette étude sème quand même
le doute. Oui, mais c'est le principe du lobbying en fait.
Oui,
c'est
le lobbying, il existe de toutes parts. Les associations anti-tabac, c'est du lobbying
mais
également.
Mais alors, Olivier, on a déjà eu ce débat, toi et moi.
Oui, je sais, on
les associations anti-tabac,
oui, c'est un
elles défendent
aussi
la santé des gens. Le,
oui, c'est un business aussi.
Non, mais elles veulent juste que les gens aient moins de cancer.
Oui, oui, oui.
Philip Morris, ils veulent juste que les gens aient plus de cancer.
Non, Philip Morris, ils vendent des cigarettes.
C'est la différence.
C'est
non, ils veulent juste, oui, ils veulent juste enrichir leurs actionnaires.
Oui.
Donc, c'est la différence, c'est les intérêts privés.
Ils ont fait
privés,
progresser les vapeurs avec
les intérêts
politique.
Publics.
Et du lobbying.
Mais dans ce cas, un politique fait du lobbying.
Bah, je suis d'accord.
Bah non, il défend l'intérêt général.
Moi, je suis pas contre le lobbying. Hein. J'ai jamais dit que le lobbying était un mauvais.
Dans ta vision, tout le monde défend un intérêt particulier. Quand on défend la santé publique, on défend pas un intérêt particulier.
On défend aussi parfois sa carrière.
Alors, Julie est buraliste. Attendez. Julie est buraliste. Elle nous appelle de la Loire à Saint-Priest-en-Jarez. Alors, j'ai essayé de bien le prononcer. Saint-Priest-en-Jarez, c'est ça ou en Jarez? Bonjour, Julie.
Oui, bonjour. Oui, c'est Saint-Priest-en-Jarez, oui, c'est ça.
Saint-Priest-en-Jarez, commune de combien d'habitants, Saint-Priest-en-Jarez?
Je ne saurais pas vous dire, on est arrivé dans la région il n'y a pas longtemps.
Mais j'imagine qu'en fait, vous, la buraliste, vous êtes venue, vous êtes un point central de rencontre, même presque, pour faire un mauvais jeu de mots, un poumon du pays, le buraliste de la commune.
Oui.
Qu'est-ce que vous voyez beaucoup de cigarettes de contrebande ou pas?
Oui, énormément. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc au standard, en fait... Moi, les clients ne se cachent même plus. Hein. Ils viennent acheter un journal, un loto. En fait, ils ouvrent leur sac. Et puis, vu qu'on est en hauteur, on voit un peu ce qui se passe. Une fois sur deux, il y a un paquet coloré, donc pas français. J'ai des clients qui viennent m'acheter des feuilles pour du tabac à rouler. Je ne les ai jamais vus acheter des paquets de tabac vers moi, donc je sais qu'ils vont ailleurs. Et puis, on en souffre énormément. À chaque augmentation, il y a 15% de ventes
Ouais, et donc pour vous c'est du chiffre d'affaires en moins, faut le compenser en plus j'imagine.
Oui, c'est ça. Et puis en fait en fait on dit que les jeunes, parce qu'on cible beaucoup les jeunes fument moins. Non, en fait ils fument moins français.
Alors
non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les jeunes fument moins. C'est pas vrai. Les jeunes, alors, ils vapent, ils vapotent beaucoup.
Ils se mettent parfois même à vapoter.
Mais ils fument
début,
beaucoup moins que les jeunes de votre génération.
Oui, c'est vrai,
pas
parce
vrai.
Que, franchement, tu vas devant un lycée. Le lycée à mon époque, tout le monde fumait. Alors qu'aujourd'hui, tu vas devant les lycées, ils fument plus les
gars. Non, mais moi, nous, on fumait devant l'entrée du lycée. Mon père fumait. Moi, j'ai génération fumeur, moi.
Voilà.
Vous
pouvez pas dire qu'on fume pas,
mon cœur. Non, mais je le constate. Oui, on fume moins.
Alors, attendez, Julie.
Ça montait aussi pendant ce temps-là.
C'est vrai aussi.
Oui, okay. Oui, ça c'est vrai.
Plus Julie, qu'à notre génération.
Julie, reste avec nous parce qu'on a Karine qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Karine.
Bonjour les GG.
Fumeuse, hein Karine.
Oui, fumeuse, grosse fumeuse d'un paquet par jour. Je sais que vous aviez un GG à l'époque.
Et je me souviens.
Qui fumait beaucoup.
Et vous commandez comment?
Un paquet par jour. Moi, je fais venir mes cigarettes d'Espagne.
Et vous les commandez comment?
Alors, je les commande, ils me les envoient par la poste.
Ah ouais?
Et vous les payez beaucoup moins cher?
Oui, carrément. J'ai 100 euros d'économie. En payant un paquet par jour, j'ai 100 euros d'économie sur mes cartouches.
Parce les frais de livraison, c'est combien?
J'en
c'est
ai
offert.
Pas.
Ah ouais?
Et vous êtes sûr de la provenance et de la qualité,
oui,
si j'ose dire, de ce que vous achetez?
Espagnol. Oui, c'est marqué sur les paquets de cigarettes.
Mais Karine, 100 euros par cartouche, donc vous fumez une cartouche tous les 10 jours, c'est ça?
80 euros, je paye.
Oui, mais donc vous économisez 100 euros par cartouche.
Ouais, j'économise 100 euros par cartouche.
Donc 300 euros par mois.
Ouais, exactement.
C'est combien une cartouche? Et 4000 sur l'année.
C'est combien une cartouche normalement?
130.
Et vous les payez?
80.
Alors qu'est-ce que vous en dites, Julie, là, vous la buraliste, alors de ce que vous entendez?
130.
Bah, après, en tant que cliente, moi, je comprends, hein, honnêtement. Hein, moi, je fumerais, je regarderais mon porte-monnaie. Mais le problème, c'est que voilà, en tant que commerçante, enfin, moi, ça me désole.
Je comprends, madame. Je comprends, madame. Sauf que, effectivement, c'est devenu hors de prix. Comme disait Flora, c'est une addiction. Il est plus facile de ne pas commencer à fumer que d'arrêter de fumer.
Karine, vous voulez pas diminuer un peu, voire arrêter?
J'essaye.
Vous essayez,
malheureusement.
Et est-ce que vous êtes accompagnée pour essayer?
Non, pas du tout.
Et ben voilà. Parce que vous n'êtes pas accompagné et parce que la médecine aujourd'hui, la médecine générale, elle n'est pas assez formée et pour orienter les personnes qui sont enfermées dans le tabac vers des solutions. Il y a l'hypnose, il y a plein de choses, il y a l'acupuncture, il y a plein de solutions pour essayer d'arrêter.
Quand même le mois sans tabac, je trouve que c'est une bonne opération de communication publique et que ça marche bien. Karine, je vous conseille de regarder, c'est totalement gratuit. C'est en général vers le mois d'octobre ou le mois de novembre. Et c'est intéressant comme dispositif, ça marche bien.
On en arrive à une situation où en fait les fumeurs, bientôt, vont acheter leurs cigarettes de dépannage en France et le reste vient d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Karine, par exemple, moi, je suis près de la Suisse. Je suis à côté de Genève.
Ouais.
Et en fait, le taux de change n'étant pas assez différent avec l'euro, je les achète pas en Suisse, en fait. Donc, j'ai trouvé cette alternative avec l'Espagne.
Écoutez, Karine, je vous remercie. Vous vouliez ajouter quelque chose, Julie? Pardon, je vous ai coupé. Dites-moi.
Oui, non. Après, comme Karine fait entre guillemets, on va dire que ça, moi, ça me choque moins que ceux qui viennent en fait acheter des cigarettes en fait dans la rue, qui sont très probablement en fait arrivés par un braquage ou un cambriolage de bureau de tabac. Parce que moi, en fait, toutes les semaines, j'entends un collègue qui s'est fait cambrioler ou braquer. Ouais. Nous, on s'est fait cambrioler en décembre. Donc, c'est autre chose, en fait.
Et en fait,
là aussi, il y a énormément de marchés parallèles avec ça.
Julie, je vous lis un message là, qui vient d'arriver sur l'appli Direct Studio d'RMC. C'est Tatiana qui vit dans l'Isère et qui dit « Je rapporte 8 à 10 cartouches tous les 6 mois de mes voyages, que ce soit au Maghreb, en Asie ou en Amérique du Sud. Ça fait quasiment 20 ans que je n'ai pas mis les pieds chez un buraliste. Et même si je me faisais prendre à la douane, les économies sont telles que je serais quand même gagnante. » Voilà ce que
donc ça vient quand même donner raison à l'étude de Philippe Maurice. Alors on ne sait pas dans quelle proportion, mais moi je trouve qu'on ne peut pas évacuer trop facilement du fait que c'est Philippe Maurice. En fait, on se rend compte que la stratégie n'est plus forcément la bonne. Peut-être qu'on a été trop loin d'augmentation du prix, il faut trouver d'autres moyens. Ouais. Alors on le voit bien, on veut interdire maintenant le tabac dans l'espace public. Dès qu'il y a des enfants, c'est la mesure qu'a prise Catherine Vautrin. Donc on va restreindre au maximum l'espace dédié aux fumeurs.
Tu te souviens, Emmanuel, et je remercie Julie et Karine d'avoir été avec nous. Je vous remercie toutes les deux. Et Karine, j'espère que vous arriverez à arrêter de fumer. Ouais, parce que c'est quand même le plus important. Merci, à bientôt dans les GG. Tu te souviens qu'on a connu une époque où on fumait dans le métro, on fumait dans les transports
dans
en
les
commun
facs.
Et on fumait dans l'avion.
Et dans le cinéma.
On fumait dans l'avion, à l'arrière de l'avion, tu fumais quoi. C'était effectivement une autre époque. Alors, on a posé la question, est-ce que c'est la fin des buralistes, le tabac de contrebande, le fait d'acheter comme ça ces cigarettes, ben vous le craignez, vous dites oui quand même à 72%. Dans un instant, retour sur le drame, le meurtre du collège François Dolto de Nogent. Le collégien n'a aucun regret. Maintenant, on voit son profil qui était celui d'un ado qui était quand même assez violent. Alors, on va reparler de la sanction pénale. D'abord, on va s'intéresser à son cas, à lui, qu'est-ce qu'il risque? Et puis ensuite, est-ce que maintenant, dès la violence adolescente ou la délinquance juvénile, il faut des petites peines courtes, tout de suite, fermes? Mais c'est au 32-16 que vous venez en parler avec les grandes gueules. Il est 10h20, vous êtes avec les GG, Barbara Lefebvre, Emmanuel Devilliers et Flora Guibali.
RMC, 9h, midi, les grandes gueules. Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire, des réveils, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h30-9h.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Bon, tableau de chat. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, avec Barbara Lefebvre, avec Emmanuel Devilly, avec Florent Guibali. Nous allons revenir maintenant avec vous, bien sûr, au 32-16, sur la tragédie, sur le meurtre de Mélanie à Nogent. Et on va s'intéresser aux peines de prison ultra courtes. Dans tous les cas, c'est Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, invité ce matin d'RMC et BFM TV, qui en appelle quand même presque à une révolution pénale.
Dès le premier fait, une peine minimale. Évidemment, la personne est reconnue coupable, bien sûr. Dès les premiers faits, dans les infractions comme les rodéos urbains, comme les vols de véhicules, comme les vols de portefeuille, comme les agressions physiques les plus lambda que les Français malheureusement connaissent, les ports d'armes comme les ports de couteaux par exemple, dès les premiers faits, il faut condamner fortement. C'est pas forcément et systématiquement la prison. La peine minimale, c'est une peine, c'est pas forcément et systématiquement la prison, mais ça peut être aussi la prison, ça peut être des peines de 15 jours, de 3 semaines, d'un mois.
Donc des peines de prison ultra courtes contre l'ultra-violence, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est au 32-16 que ça se passe, bien sûr.
Aujourd'hui, ce n'est pas possible.
les gardes des Sceaux se succèdent sous la Macronie, mais ils ne pensent pas la même chose. C'est ça un peu le problème. Parce qu'il faut une stratégie, et la stratégie, elle change en fonction des gens qu'on place à Place Vendôme. Il y a eu Nicole Belloubet, qui a été ministre de la Justice d'Emmanuel Macron. C'est elle qui a interdit de mettre en prison des gens qui avaient été condamnés à moins d'un an de prison. Donc on aménage la peine, ça peut être un bracelet électronique, des TIG, un stage citoyen, etc. Bref, ça ne fonctionne pas du tout. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Lui dit, c'est un message laxiste donné. Je suis condamné à un an de prison, mais finalement, je ne ferai jamais ça. Donc c'est un non-sens. Donc il veut poser la question des courtes peines, même des très courtes peines. Ça existe dans d'autres pays, notamment aux Pays-Bas, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc ça veut dire qu'il faut revoir les consignes qui ont été données aux magistrats, parce que les magistrats, on leur tape dessus matin, midi et soir, mais c'est compliqué. On leur dit, vous n'êtes pas assez dur, mais en même temps, mettez pas en prison parce que c'est la règle. Donc c'est vrai pour les magistrats, et c'est ce qu'expliquait Béatrice Brugère hier, c'est un truc un peu schizophrène. Donc est-ce qu'il faut aujourd'hui vraiment arrêter d'aménager obligatoirement les peines de moins d'un an de prison, et pourquoi pas aller vers 15 jours, 3 semaines ou un mois de prison?
Pour compléter ce que tu dis, Madame Taubira avait supprimé la révocation du sursis.
Aussi.
Parce que normalement, quand tu prends un sursis et qu'ensuite tu commets une faute ou un délit, le sursis tombe et tu vas en prison. Donc ça a été, et ça, Béatrice Brugère, la magistrate, disait que remettre la révocation du sursis, c'est pas compliqué, ça Gérald Darmanin peut le faire. Alors, s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais il pourrait peut-être la trouver sur cette question. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel ?
Ça va dans le bon sens, indiscutablement. On peut s'étonner quand même, si on apporte un commentaire, qu'il fasse 6 mois au garde des Sceaux pour faire un tel constat, après avoir été ministre de l'Intérieur 4 ans. Sachant que tous les problèmes du ministre de l'Intérieur étaient largement l'inefficience judiciaire ultérieure. Si on était comme ça dans le monde de l'entreprise, il n'y aurait pas beaucoup d'innovation. Non, je pense qu'il faut maintenant des politiques. Quand on est nommé ministre, on réunit des sachants, on prend un bout de plateau repas, on va jusqu'à 2h du matin, on regarde ce qui se fait à l'étranger, on est quand même censé être compétent avant, et les mesures, on les annonce sous 48 heures.
Là, pour remettre la révocation du sursis, il n'y a pas besoin de plateau repas et d'aller jusqu'à 2h du matin. Hein.
Ça fait des années, il faut 5 ans pour une gestation.
Mais là où il a raison, c'est que le ministre de la Justice entame des discussions avec les présidents des groupes parlementaires, les chefs de parti, ça va prendre du temps. Ensuite, il voudrait une réforme du système judiciaire, donc il faut que ça passe par la loi. Donc on part sur un truc. Moi, je prends le pari qu'on verra jamais le jour.
Mais parce que
les gens qui nous écoutent, les artisans, etc., quand ils ont un pneu qui crève ou une machine en panne, ils font pas un colloque pour savoir comment on fait.
Oui, mais parce qu'on réfléchit là d'une révolution à faire quelque chose de global. S'il y a des mesures à prendre immédiatement et qu'on peut les prendre, t'as pas besoin de la révolution et de réunir des commissions.
Non, parce que la consigne de Belloubet, tu peux la changer. Tu peux dire désormais.
Mais ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens.
Et la révocation du sursis, tu peux le faire tout de suite, Flora.
Moi, je suis embêtée par cette proposition puisque il y a une étude que j'ai lu qui montre qu'aux Pays-Bas, adopter cette même proposition a fait augmenter la récidive. Donc,
sur les peines ultra courtes.
Donc, si le but c'est de faire augmenter, vous savez, c'est l'exemple qu'on utilise tout le temps. Il y a un petit jeune qui fait un petit truc de délinquance. Il rentre il a dealé un petit peu. Il rentre en prison, il ressort, il braque une banque. Donc, en fait, la prison, c'est aussi une fabrique parce que vous êtes isolé avec des voyous et des personnes qui sont pires que vous, souvent. Quand vous êtes condamné pour une petite peine de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Voilà. Donc, moi, je suis embêtée, sachant qu'en France, on a. Je sais pas pourquoi on oublie tout le temps de dire ça. Jamais j'entends un garde des Sceaux, jamais j'entends un ministre de l'Intérieur nous dire ça. On a 70% des détenus qui récidivent. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Le but, c'est quand même de sécuriser la société de toute cette conversation. Or, quand on envoie quelqu'un en prison, il sort 70% de chances qu'il récidive. Vous voyez bien que c'est un échec. Je pense que si on dit aujourd'hui que les peines type travaux d'intérêt général et ce genre de choses sont ratées, c'est parce qu'on ne sait pas les organiser et on ne sait pas mettre les moyens. Et donc, quand vous avez des travaux d'intérêt général, si on vous met dans un gymnase toute une journée et qu'on vous dit de balayer le sol, oui, effectivement, vous n'allez rien apprendre, vous n'allez pas changer. Si vraiment on vous montre à quel point vous devez contribuer à l'effort collectif et on vous apprend un peu quelque chose, je parle pour les petites peines, je ne parle pas des gens qui ont tué notamment la surveillante ou quoi, qui méritent des gros peines et qui méritent d'aller en prison. C'est pas ce que je dis. Je dis sur les petites peines de 15 jours, 3 semaines, il y a d'autres méthodes qui permettent d'éviter de transformer des petits voyous en gros caïds. Et ça, c'est pas dans leur intérêt à eux, c'est dans l'intérêt de la sécurité.
Prenons justement le cas de cette adolescente de 14 ans,
Mais non, mais il n'est pas concerné par ce cas.
Non, non, bien sûr, mais simplement, juste réfléchir, qu'est-ce qu'il risque maintenant ? Ça va être, normalement, c'est 20 ans de réclusion,
oui,
c'est ça ? Enfin,
oui, parce que je crois que dans son cas...
Il a 14 ans.
Il y a l'excuse de minorité.
Donc ce sera le tribunal pour mineurs.
Tribunal pour mineurs, ce n'est pas la cour d'assises des mineurs, c'est tribunal pour mineurs. L'excuse de minorité, elle est de facto, hein, parce que de toute façon, elle ne peut pas être levée dans son cas. Voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout, il faudrait demander à Charles ou à des spécialistes du droit, mais à mon avis, au bout de 10 ans, à mon avis, il sort.
Donc à 25-30 ans, il sera dehors, en fait.
Maintenant, vous savez, si on écoute par exemple la direction de la police, de la PJJ, qui a fait un rapport transmis à la Cour des comptes, ils vont vous dire, ah non, bah, d'ailleurs je l'avais là, c'est une expérience déstructurante. La prison pour les mineurs, puisqu'aujourd'hui il y a 7 établissements, 2 quartiers de mineurs pour les garçons, 2 pour les filles. Ils ont tous été établis entre 2006 et 2007. Depuis 2007, on n'en a plus jamais refait des prisons pour mineurs, des établissements pénitentiaires pour mineurs. Alors la DPJJ, elle dit quoi ? Elle dit, ah ben on n'a pas assez d'agents pénitentiaires, la scolarisation, ça bat de l'aile, il y a beaucoup de violence, les gamins sont complètement déstructurés, il y en a d'autres, de toute façon, la prison, ça correspondait déjà à leur mode de vie, donc ça leur fait rien. Donc de toute façon, il y a un discours de la part d'un certain nombre d'acteurs de la PJJ, de la justice, qui de toute façon va dans le sens de « non, c'est pas bien la prison ».
Il y a un discours idéologique.
Voilà, donc, M. Darmanin peut dire quelque chose, M. Tartampion peut dire quelque chose. Si vous avez derrière toute la masse des acteurs de fond qui vont tirer vers le bas toute tentative de réforme, moi je vous le dis, on n'y arrivera pas. Parce que de toute façon, ils vont vous expliquer par A plus B que ça ne marche pas.
Mais tout le monde n'est pas au syndicat de la magistrature quand même, c'est que 30% des magistrats.
Oui, mais c'est toujours, ça s'appelle la minorité tyrannique.
Il y a des gens comme procureur Molins qui sont plutôt dans le camp de ceux qui disent la prison c'est la récidive donc il faut rien faire, et puis il y en a d'autres comme Béatrice Brugère,
mais
c'est FO, les syndicalistes FO qui sont plutôt en soutien aux mesures de Darmanin.
Non, c'est 30% mais qui infuse sur les 70 autres pourcents.
Je suis désolée, les minorités tyranniques, c'est celles qu'on entend le plus, parce que la majorité en général, d'abord, soit elle se tait, ou bien elle n'exprime pas son opinion, ou bien elle craint pour sa carrière. Eux, de toute façon, ils ne craignent pas pour leur carrière, parce qu'en général, ils sont syndiqués à bloc, donc ils sont protégés par la loi, et ça leur permet de s'attaquer à X, Y, à cibler les uns les autres. Donc, eux, ils vont vous expliquer que la prison, ça sert à rien, il faut de l'éducation. Je vous répète, on vit dans une société où depuis 30 ans, on a expliqué que la sanction, c'était la répression, voire l'oppression. Je suis navrée, la sanction, elle est éducative. Mmh. Il n'y a pas d'éducation sans sanction. Oui, mais... Et on vous dit aujourd'hui, dans l'esprit d'un certain nombre de gens, sanctionner un enfant, c'est l'oppresser, c'est le réprimer. Nous-mêmes, les enseignants, on en est victimes. On nous explique que quand on sanctionne certains élèves, c'est quasiment de la répression. Et vous avez des parents qui vous expliquent que c'est de la répression. Et parfois, des chefs d'établissement qui vous expliquent que non, il faut être bienveillant, il faut être dans l'écoute et dans l'éducation. Moi, je suis navrée, la sanction, à un moment donné, la butée éducative, quand elle n'a pas été mise par les parents, une semaine en prison. Mais il faut que la prison elle soit structurée. Oui, mais... Il faut des cellules individuelles. Il faut un suivi psychologique. Et pendant la semaine où le gamin il est là, il faut qu'il pense à ce qu'il a fait.
D'accord.
Pas d'être mélangé avec d'autres gamins qui sont complètement dingos comme lui.
Là, non. Aujourd'hui,
faut que ce soit un moment d'isolement pour penser son acte.
Et pour ça, il faut construire des prisons. Il faut peut-être de nouveaux établissements adaptés. Parce que là, on a 82 000 détenus pour 57 ou 58 000 places. Donc, on est en surpopulation carcérale. Et pour donner raison à Flora, depuis le temps qu'on fait des sujets sur la prison et sur l'incarcération, le nombre de fois où on a eu des surveillants ici nous raconter que effectivement, les caïds sont là à corrompre les jeunes. D'abord en leur faisant peur, en leur disant, tu sais où on est, on sait où est ta famille, on a besoin de petites mains à l'extérieur, et puis tu verras, tu prendras 5000 euros rapidement, ça va changer ta vie, tu pourras avoir une voiture puissante, etc. C'est comme ça aussi que certains se retrouvent à partir dans la récidive.
Mais les prisons sont organisées n'importe comment. On ne doit pas organiser les prisons par statut, par si vous voulez, temps de peine, lui il est en détention provisoire. Non, il faut faire des prisons par spécialité. Une prison pour les narcos, une prison pour les délinquants financiers. Mais c'est ça qui veut faire Darmanin. Ils sont là depuis combien de temps ? Depuis 2017. Monsieur Macron, il a promis des places de prison.
Oui, mais le problème, c'est garde des sceaux. Le problème, c'est que Darmanin.
Il se réveille au moment où ça se termine.
Mais le problème, c'est. Et là, c'est toute la limite de la Macronie. C'est-à-dire qu'on a eu comme garde des sceaux Nicole Belloubet et Gérard Darmanin.
Ah, oui.
Bon, on a eu ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer et Pape Ndiaye. Donc, si tu veux, on passe de tout et son contraire. Pas, donc temps, chacun défend ses idées qui sont tout à fait respectables, mais on va à chaque fois dans des directions opposées.
Et surtout, donc, il n'y a aucune stratégie à long terme. Il ne se passe rien, je me répète, vous êtes nommé ministre. Vous coupez votre téléphone, vous réunissez des sachants. D'abord, vous êtes censé être compétent dans votre département ministériel antérieurement. Vous réunissez des sachants. Surtout, une soirée, deux soirées, et vous avez votre diagnostic et vous le mettez en œuvre.
Et surtout, là où Olivier, tu as raison, déjà passer du septennat au quinquennat, c'est-à-dire passer le mandat politique de 7 à 5 ans, c'était vraiment pas bien pour ce genre de propositions, de changements qui prennent du temps. Donc en fait, quand un ministre est là pour 5 ans, déjà c'est pas assez.
Mais il doit rester 5 ans, il doit pas changer tous les 6 mois.
Là, Darmanin, il parle de faire une révolution du système carcéral.
Oui, bon, faire une révolution.
En 5 ans, c'est déjà pas beaucoup.
Là,
ce qui est dingue avec le en même temps, c'est
qu'on
est passé de 5 ans à 6 mois, 3 mois, 8 mois, qu'est-ce que ça veut dire quand on change de ministre tous les 3 à 6 mois? Qui va faire quelque chose?
L'éducation, c'est tous les ans.
Ce qu'a fait Emmanuel Macron avec le en même temps, c'est transformer pas le septennat en quinquennat, c'est transformer le quinquennat en trimestre.
Ah ben on va continuer d'en discuter. Des peines de prison ultra courtes, est-ce que ça peut être la bonne solution ou pas? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules. Restez avec nous, il est 11h20.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme, avec Jérôme Roten.
2 heures de débat foot, autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match, avec la Dream Team Foot RMC.
Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon.
Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC.
RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr. Et sur l'appli RMC. RMC Gold n'est pas en FM ni en DAB+.
Vous voulez écouter RMC Gold dans votre voiture? Téléchargez l'appli RMC. Connectez votre téléphone à votre véhicule en USB ou en Bluetooth.
Lancez l'appli RMC, le lecteur RMC Gold est sur la première page. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Maintenant, profitez du meilleur des années 80 et 90.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui?
Sur RMC. Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff, RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, avec Flora Guevadi et Emmanuel De Villiers. C'est vrai qu'on est tous toujours sous le choc de ce drame, de ce meurtre. Parce que c'est ça, faut bien appeler ça un meurtre, d'autant que le parquet va requiert la mise en examen pour meurtre.
Ça va peut-être être qualifié, à mon avis, ça peut être qualifié en assassinat. Puisque, semble-t-il, selon les dires du meurtrier, il avait préparé, hein, il voulait s'en prendre à une surveillante depuis 3 jours.
Il y a l'intention et il y a la préméditation. Voilà.
Parce que depuis le samedi, tout le week-end, il ruminait quand même ça. Et puis ensuite, il est parti de chez lui avec le couteau. Ce qui prouve que l'interdiction...
Il n'a pas eu besoin d'aller à la couteau.
Voilà, l'interdiction de vendre des couteaux aux mineurs, ça ne sert strictement à rien.
Il va se poser quand même la question, je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel notamment, mais certes, il est mineur. Il a 14 ans, donc l'excuse de minorité, de toute façon, on ne peut pas la lever, parce qu'on ne peut la lever que pour les 16-18 ans.
Il faut changer les lois.
Il va être condamné 20 ans maximal. Donc il en fera 10 ou 15, hein, avec les remises de peine, etc. Donc à 24 ans, il est dehors. Oui. 25 ans. Donc ça va poser quand même une question à l'opinion publique en se disant est-ce que quelqu'un qui semble être très dangereux, très déterminé, on peut le laisser dans la nature dans 15 ans.
Ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais moi je maintiens que les parents ont une responsabilité. Il y a eu ce week-end qu'Alain vient de rappeler. Ils ont en partie cette dimension de co-auteur,
même s'ils étaient au courant de rien. Peut-être.
Ils ont une responsabilité.
Ouais, mais les ados, tu sais bien que tu dissimules, après, tu racontes ce que tu veux à tes parents. S'il le faut, il est allé jouer au foot avec ses potes.
Oui, parce qu'on fait le procès de l'État, mais on fait jamais ses parents.
Non, mais sur cette affaire-là de nos gens, je ne connais pas la proximité, mais par exemple, si on prend une autre affaire qui est en cours en ce moment, au moment où on se parle, qui est la jeune fille à Courbevoie qui a été violée, torturée par 3 gamins, enfin surtout 2, il y a un organisateur et 2 qui ont tué, les gamins qui ont violé et torturé cette gamine en la filmant, ils avaient 12 et 13 ans, donc eux aussi, il y aura l'excuse de minorité. Ils vont faire combien ? ils vont faire 5, 6, 7 ans et ils seront dehors.
Oui,
donc, mais... Et là, les parents, dans ces cas-là, parce que quand vous regardez l'itinéraire d'enfance et d'éducation des trois loustiques, je peux vous dire que là, oui, le mot barbare va bien. Et l'éducation, je peux vous dire qu'il y aurait fort à voir avec les parents.
Oui, hein. Mais je m'excuse, mais à partir du moment où on dit excuse de minorité, les gens qui nous écoutent doivent comprendre, on dit excuse de minorité, ça veut dire que les parents sont concernés.
C'est vrai,
oui,
aussi.
C'est vrai.
Et la responsabilité parentale.
C'est reconnu par le code pénal, hein, la responsabilité des parents. Hein, c'est
Sébastien va intervenir dans les GG. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Quelle est la solution? Que faut-il faire? Que faut-il
Alors
revoir,
moi,
Sébastien?
La solution pour moi, ça serait de reprendre des anciennes casernes, de refaire des maisons de redressement pour ces jeunes, de les retirer aux parents, de leur enlever les allocations familiales qui touchent pour ces jeunes et de les redresser par les militaires en leur faisant faire des tâches. Vu que les parents sont incapables de gérer leurs enfants, eh ben, ça sera à nous de les gérer. Et les militaires, convainquez-moi, ils vont les gérer.
Oui, mais avant le meurtre, c'est-à-dire que...
Dès qu'il y a un signalement, on les retire, voilà. Et puis c'est fini.
C'est-à-dire, par exemple, les deux jeunes qui ont tué Elias, puisque eux, ils avaient été repérés, hein, ils devaient d'ailleurs passer devant un tribunal, ces deux-là, on aurait pu les emmener dans ce type d'établissement.
Moi, intuitivement, je pourrais être d'accord avec vous. Le problème, c'est que je me suis fait taper dessus par des militaires qui m'ont dit nous, on est là pour protéger la France face à Poutine, face à des menaces internationales. On n'est pas là pour éduquer les jeunes. Et donc, le problème... Alors, les militaires, ils ont pile assez de budget pour que cette affaire fonctionne. Si demain, on leur met plein d'injonctions, plein de nouvelles charges, ils vont se retrouver comme les profs et les soignants à être en détresse, ou comme les policiers.
Et donc, absolument en fait... pas, parce que les militaires, il y avait eu, quand il y avait le service militaire, il y avait un cadre, madame. Il y avait un cadre.
Oui, mais c'était pas fait pour reprendre les jeunes.
Alors ça,
c'était fait pour former des soldats.
Sébastien, oui, faire le service militaire obligatoire pour...
Ah oui, c'est autre chose.
Non, mais Sébastien, le service militaire obligatoire pour tous les jeunes, je suis à fond pour. Voilà, là, on parle de créer des maisons de redressement qui seraient dirigées par des militaires.
On parle de
Je rejoins Sébastien. En tout cas, si on crée des maisons de redressement, il faut les donner à des militaires. Parce que si c'est pour les donner à certains, j'ai bien dit certains, j'ai pas dit tous. Donc, ne vous excitez pas déjà, à certains éducateurs, hein, qui sont, excusez-moi, mais un peu mous du genou, et toujours viens t'asseoir, viens, on va parler. Bon. Moi, je suis pas d'accord. Donc, il faut que si on fait des maisons de redressement, que ce soit confié à des gens qui ont la conscience de ce que c'est que l'éducation, et je le répète, oui, avec des garçons, il faut une éducation, excusez-moi, oui, je sais, c'est Réa qui c'est à l'ancienne, des éducations de garçons, faites par des garçons.
Sébastien a raison, il faut des agents d'ambiance, mais avec des barrettes sur les épaules.
Voilà. Moi, je peux venir, Sébastien, parce que je fais une éducation de garçons.
Sébastien, on va écouter Laetitia. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est surveillante pénitentiaire, Laetitia. Bonjour Laetitia.
Bonjour à tous.
Alors, courte peine, qu'en dites-vous?
Ah, moi, je dis que c'est pas né, enfin, ça ne servira à rien parce que moi, ça fait 18 ans que je suis dans l'administration pénitentiaire. J'ai commencé en plus dans un établissement pour mineurs et courte peine, ça n'a jamais réglé les choses. Le problème, c'est que depuis 2009 qu'on est passé sur les règles pénitentiaires européennes, on ne peut plus faire trop de répressifs et que il n'y a plus d'éducation pour les jeunes. C'est compliqué pour eux.
Mais par exemple, un jeune, quand il arrive dans ces établissements, qu'est-ce qui est prévu pour effectivement éviter la récidive? C'est-à-dire essayer de le remettre dans le droit chemin.
Le problème actuellement, c'est que dans l'administration pénitentiaire, que ce soit pour les surveillants et pour les éducateurs PJJ et les conseillers d'insertion de probation, on a un problème d'effectif. Donc, on n'a pas le temps de s'occuper de la réinsertion.
D'accord.
J'avais entendu dire qu'à Marseille, il manquait 50% des agents pénitentiaires dans les quartiers de mineurs. C'est vrai ou pas?
J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est possible. C'est possible. C'est pas que dans les établissements pour mineurs, c'est dans les établissements de France. Il est là le problème.
Donc il n'y a pas la peur de retourner en prison? Parce que c'est ça, hein. L'idée, c'est que...
Ah non, mais carrément pas. Ils viennent, ils font leurs 6 mois. Comme on n'a pas d'argent, et ben les contrôles, ils sont moindres. Et que ben il n'y a plus la peur de la prison. Et je rejoins votre précédent auditeur.
Oui, Sébastien.
Je pense que de remettre un service militaire obligatoire, ça cadrerait les choses. Parce que moi, avant de rentrer dans l'administration pénitentiaire, j'étais militaire. Et j'ai appris beaucoup de choses, le cadre, le respect.
Sauf qu'on allait à l'armée à 18 ans, là on parle de très jeune, hein, de 14, 15, mais 16
alors,
ans.
Alors, ce qu'on peut peut-être, éventuellement l'idée me vient, puisqu'on envisage d'envoyer des gens à l'étranger, les OQTF, etc. On peut aussi envoyer certains de nos jeunes dans des prisons à l'étranger, dans des camps de redressement à l'étranger avec d'autres armées. Et alors il y a certaines armées... Je pense qu'il serait vite redressé.
En vrai, mais c'est pas le rôle des armées.
Je sais pas.
Vous savez, plus au sud. Dans les prisons du sud, on a beaucoup de gens qui sont libérés après sous OQTF. Et je pense que s'ils feraient leur détention dans leur pays d'origine, la mayonnaise, elle serait pas pareille.
Vous êtes en train de dire, Laetitia, que les conditions de détention sont un peu trop cool, c'est entre guillemets, hein, c'est ce que j'entends.
Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le choix, on n'a pas assez de personnel, on n'arrive pas.
Ils ont des portables, ils n'ont pas l'impression finalement de vivre l'enfer lorsqu'ils passent 6 mois dans la prison.
Mais pas du tout.
Donc c'est pas dissuasif pour eux.
Non, c'est pas dissuasif. Faut savoir aujourd'hui que en 2025, depuis longtemps, la prison c'est que la privation de liberté.
Oui, bien sûr. Mais Laetitia, est-ce que parfois dans une cellule, on se retrouve avec des délinquants aguerris ou des caïds qui sont avec des jeunes de 18 ans qui ont commis des petits délits ou pas? Est-ce que ça
c'est
arrive,
possible,
ça?
Mais normalement, le tri, il est fait dès qu'ils sont arrivants. Normalement, les très jeunes, ils sont avec les très jeunes. Les
caïds entre eux. Ouais, surtout que là, on va les isoler, on va les mettre dans deux prisons de haute sécurité, hein, les narcotrafiquants.
Oui, attendons de voir ce que ça va donner, toute cette histoire aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement une surpopulation que...
C'est ça. Vous avez combien parfois par cellule chez vous, Laetitia, alors?
C'est arrivé trois, hein.
Trois, et encore, ça va. Parce que des fois,
Vous savez, on prend là le sujet... Évidemment, on est obligé de réfléchir au sujet de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des jeunes qui nous posent problème. Mais allez demander à mes collègues qui sont enseignantes en maternelle. Nous avons aujourd'hui des graves problèmes éducatifs de gamins de maternelle. Un enfant en maternelle, par exemple, les premières choses qu'on lui apprend pour qu'il puisse aller en scolarisation, c'est par exemple, on ne parle pas en même temps que l'adulte qui parle. On ne prend pas le tour de rôle de son copain. Quand on vous dit, vous venez, on pousse pas, on se lève pas sans autorisation, on n'explose pas de colère quand l'adulte te dit non. Ça, c'est le quotidien d'un certain nombre d'élèves dans des classes, et les institutrices et les AESH qui sont là, ou les auxiliaires puériculteurs, ne peuvent plus gérer trop de gamins qui n'ont même pas ces codes à 3 ans.
Mais ça, on revient à l'éducation.
Et on les sort à 5 ans, ils les ont toujours pas acquis. Pourquoi ? Parce que vous avez des parents défaillants, des parents qui s'attaquent aux enseignants. Allez, vraiment, moi je vous le dis, allez écouter le récit de certaines instituts de maternelle. Vous allez comprendre pourquoi, de toute façon, ensuite, ça ne peut que s'aggraver. Et donc, nous, une fois qu'ils arrivent au collège ou au lycée, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que les gens de la pénitentiaire peuvent faire? Je vais vous dire même, qu'est-ce que les juges peuvent faire? Encore une fois, c'est dans la petite enfance que tout se joue.
Merci à Sébastien et merci à Laetitia d'avoir été avec nous. Allez-y, Laetitia, oui, surveillante.
Barbara, pour revenir sur votre propos, moi j'ai mon petit neveu en classe de CP, il a été harcelé et personne n'a rien fait.
Et voilà.
Il y a que là, en CE2, le gamin harceleur, il va changer d'école et il va redoubler.
Voilà.
Laetitia, merci d'avoir été avec nous. Alors, peine ultra courte, efficace ou pas, efficace oui ou non, on va regarder ce que vous en pensez. Est-ce assez partagé? Enfin, aussi, vous dites quand même oui à 61%. Allez, dans un instant, avec les GG, taxer les 1800 plus riches de France, ça rapporterait 20 milliards d'euros, c'est la taxe Zuckman. On dit oui ou non? À tout de suite.
RMC, 9h, midi, les grandes gueules.
C'est Vincent Moscato sur RMC. Je vous interromps, car si vous vouliez écouter le Super Moscato Show, c'est pas maintenant, hein. Alors attention, je vous dis pas d'arrêter d'écouter, comprenez-moi bien. L'émission actuelle est une très bonne émission et vous avez raison de l'écouter. Mais le Super Moscato Show, c'est du lundi au vendredi de 15h à 18h. Alors à tout à l'heure, 15h sur RMC.
Ok Google, mais RMC.
Ok.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout. Tout le temps.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Stories. C'est avec vous tous les jours. On discute, on débat. Vous prenez la parole avec Barbara Lefebvre, avec Florent Guévalli, avec Emmanuel Deville. Il nous reste une heure à passer ensemble. Et si vous avez raté les deux premières heures des GG, sachez qu'elles sont d'ores et déjà disponibles en podcast. Et les podcasts, vous les retrouvez sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Tout à l'heure, à midi moins 20, notre dernier sujet de discussion, ça va concerner, parce que là, la chaleur revient, les fameuses tenues correctes exigées dans les centres-villes. Vous savez, et en particulier le fait de ne pas se promener torse nu. Alors, torse nu, même si on a le t-shirt sur les épaules, enfin, ça doit peut-être quand même pouvoir être toléré.
Non.
La part de certains. Bon, écoutez, on en parlera tout à l'heure à midi moins 20. En attendant,
on va examiner
ce que l'on appelle la taxe Zuckmann.
Si on est taillé comme Désiré Doué, ça va.
Allez, go. La taxe Zuckmann, ça pourrait être, on connaissait les peines planchers, là ça pourrait être l'impôt plancher pour les ultra-riches, et ça concernerait à peu près, en France tout du moins, 1800 foyers, j'ai bien dit foyers.
Si vous aimiez l'ISF, l'impôt sur la fortune, vous allez adorer cette taxe Zuckmann. Il y a une proposition de loi des députés de gauche, Eva Sass et Clémentine Autain, inspirée donc par les travaux de l'économiste Gabriel Zuckmann, qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale et qui passe au Sénat aujourd'hui. Elle instaure un impôt plancher sur le patrimoine des 0,01% des contribuables les plus riches en France. Ils ne sont pas très nombreux, hein, moins de 2000 concernés, afin de s'assurer qu'ils paient au moins 2% de leur fortune en impôts. Le constat est que les plus riches, selon Clémentine Autain et Eva Sass, et cet économiste Gabriel Zuckmann, les plus riches en France, ne contribuent pas aujourd'hui à la hauteur de ce qui est demandé aux autres catégories sociales. Il y a même des économistes, alors qu'ils ne sont pas forcément des gauchistes, qui ont signé une tribune dans Le Monde hier ou avant-hier. Il y a notamment Blanchard, qui était Strauss-Kahnien à l'époque.
Pisani-Ferry,
donc c'est pas... Voilà, c'est plutôt... Et ils disent, l'ensemble des Français acquittent environ 50% de leurs revenus en impôts cotisations sociales. C'est peut-être d'ailleurs ça qui devrait choquer les gens. Hein, c'est la moitié de ce qu'on gagne. Hop, c'est pris par l'État. Et le chiffre tombe à 27% pour les milliardaires, soit presque deux fois moins, ce qui pose un problème d'égalité devant l'impôt. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette taxe Zuckmann ?
Déjà, Olivier, dit que c'est le retour de l'ISF. Or, la taxe Zuckmann concernerait 18 000 foyers.
1800 ménages. Tu vois, tout de suite.
Non, justement. J'allais me contredire. Je reprends.
42 milliardaires.
L'ISF. La taxe Zuckmann concernerait 1800 foyers, quand l'ISF en concernait à peu près 180 000.
Non, 300 000 même.
Ah, bah 300 000. C'est 300 000. Alors, décidément, j'avais tort sur mes chiffres. Donc, de quoi on parle quand...
Parle les plus riches.
Quand on parle des grandes fortunes, du 0,001% de grandes fortunes.
On parle des 1800 plus riches de France.
Ensuite, le seul sujet qu'il y a dans cette taxe, qui devrait être évidente pour tous les politiques, c'est qu'elle peut ramener 15 à 25 milliards par an. Quand on a un gouvernement qui passe sa journée à nous dire qu'on cherche 40 milliards par an et que si on ne les trouve pas, on va mettre la clé sous la porte et qu'on va sombrer, le seul débat qui anime nos politiques depuis le début de cette année, c'est où trouver. Non, c'est par an.
Mais non,
c'est par an. Ce qu'ont écrit les économistes dans Le Monde.
Je vais te prendre un autre exemple. Nous avions mis en place en France une taxe sur les yachts de plus de 30 mètres, qui sont plutôt détenus par les riches. Ça devait rapporter, selon la personne qui a mis en place, entre 5 et 10 millions d'euros par an. Et en 2024, il y a eu simplement 60 000 euros de rentrée. Pourquoi ? Parce que les yachts, aujourd'hui, ils appartiennent toujours aux Français, mais ils sont pavillons étrangers.
Mais tu vas pas pavillonner ton entreprise.
Tes 1800 riches, rien ne les empêchera d'aller s'installer ailleurs. Et donc, c'est pour ça que ta taxe Zuckmann, ça va marcher la première fois, la deuxième fois,
Même pas,
c'est un scandale. Tu es de bonne foi, mais tu dis une énorme erreur.
parce que l'essentiel de ces fortunes considérables est dans l'outil de travail, ce qu'on appelle l'outil professionnel, c'est-à-dire dans les entreprises, en titre. Eh ben, on ne peut pas s'acquitter. Tu veux forcer les gens à vendre leur entreprise, à les vendre à l'encan, à la bourse. Ça fera partir les fortunes et ça fera comme pour les cigarettes. On se retrouvera une main devant, une main derrière et bien socialiste.
Le problème de la taxe Zucman, c'est... Elle a un bon côté et un mauvais côté. Le mauvais côté, je l'évacue parce que tu l'as rapidement évoqué, c'est la question de fiscaliser. C'est 2% du patrimoine, faut pas non plus rêver. La taxe Zucman, c'est pas non plus pour leur prendre 70%, c'est prendre 2%.
Mais leur fortune, c'est leur boulot.
Non, on leur prend sur le patrimoine immobilier.
Mais 2% par an ?
Sur le patrimoine immobilier, etc. Le problème, c'est que quand on taxe aussi l'outil de travail, pour certaines licornes notamment, on va donner l'exemple qui a été donné maintes fois, mais on va le donner. Arthur Mensch, qui a donc fondé Mistral AI, qui est une des rares entreprises qui peut concurrencer un peu les grandes entreprises chinoises et américaines, aujourd'hui, elle est valorisée en bourse 6 milliards d'euros. Mais Arthur Mensch, il n'a pas 6 milliards d'euros dans la poche. Si on lui prend 2% des 6 milliards,
il n'a pas 100% de sa boîte.
Une seconde, il fout la clé sous la porte. Donc là, au contraire, donc moi, je ne suis pas pour que la taxe Zucman elle soit aussi sur l'outil de travail. En revanche, je suis favorable à ce qu'on rééquilibre la question de l'effort fiscal. Quand il n'y a pas de proportionnalité de l'effort fiscal, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de consentement à l'impôt. Aujourd'hui, le taux d'effort fiscal des très très riches, il est largement inférieur au taux d'effort fiscal des classes moyennes. Je ne vois pas pourquoi mon taux d'effort fiscal serait 10 fois plus grand que M. Bernard Arnault ou Mme Meyer.
Barbara, tu es peut-être, je pense, de bonne foi, mais là aussi, c'est une très grave erreur.
D'accord,
parce
que
les gens riches dont on parle, ils ne sont pas plus cons que la moyenne. Généralement, ils sont... parfois plus
ils
doués.
Vont se barrer.
Ils vont foutre le camp, ils vont prendre leur valise sans
se dire.
Et salut la compagnie. Et votre effort fiscal, vous allez vous le mettre où je pense parce qu'il n'y aura rien du tout.
Votre argument.
Ils seront en Suisse, ils seront en Angleterre, ils seront en Belgique, ils seront aux États-Unis.
En fait, après, vous vous étonnez que les gens votent pour les extrêmes. Votre argument, c'est de dire on peut rien contre les riches, mais en fait, on peut tellement taxer les pauvres.
Ils sont déjà surtaxés, Flora.
Mais il faut arrêter de taxer les pauvres.
Emmanuel, continue à taper sur les classes moyennes.
Je vais finir ma phrase et vous n'allez pas m'interrompre. OK? Les pauvres, on peut leur faire les poches toute la journée et leur prendre 50% de ce qu'ils gagnent.
C'est un scandale.
Par contre, les riches, comme ils peuvent se casser à Bruxelles ou à je sais pas où, on va pas le faire.
Non, au contraire. Au contraire, tu devrais t'indigner que dans ce pays si mal géré, on prenne 50% et c'est un minimum.
Mais
50% pour beaucoup, c'est 60-70% de leurs revenus. Hein. On peut avoir des témoignages de 32-16. On prenne 50-60-70% de tes revenus pour si mal gérer ce pays.
Alors
c'est ça le vrai scandale.
Et
Madame Sass et Madame Autain devraient plutôt se battre là-dessus plutôt que vouloir inventer un nouvel impôt.
Oui, je suis d'accord avec toi. Descendons tous à 25%.
Bien sûr, flat tax, 25%, pas plus.
Le vrai scandale, c'est quand on cherche les 40 milliards chez les plus pauvres, alors que les plus grandes fortunes, c'est même pas les riches. Les riches aussi, ils payent 50% d'impôts. On parle
riches,
des très, 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 très riches. Eux, ils payent en moyenne 27% d'impôts.
C'est plus de 100 millions.
Comment on explique, que vous et moi payons plus d'impôts que les héritiers des plus grandes fortunes françaises?
Ce que tu racontes, c'est une fable. L'argent, il est dans les entreprises.
C'est pas une fable. Il faut savoir que
depuis l'impôt sur les grandes fortunes, lancé en 1981, toutes les fortunes françaises, avec l'argent réalisé, comme ce dont tu parles, ils sont partis à l'étranger. Ils sont partis en Belgique, ils sont partis en Suisse, et ils ne reviendront pas.
Donc si on veut continuer avec les petits riches,
allons-y.
D'accord, ma fable, elle n'est pas théorisée par moi, elle est théorisée par M. Blanchard, ancien du FMI et professeur au MIT, M. Pisani-Ferry, qui a écrit le programme économie de Emmanuel Macron,
Et
qui
est macroniste, et pourchoyeur de l'économie,
et M. Zucman.
C'est la gauche libérale.
Donc il y a une union des économistes sont tous d'accord pour dire.
Non.
D'ailleurs, ils précisent.
Les économistes en chambre qui n'ont pas créé un emploi.
D'accord, mais je vais te dire une chose.
Les économistes précisent que s'ils n'ont pas la même manière de voir l'économie et la façon dont on doit redistribuer les richesses, sur cette taxe, c'est tellement évident qu'il y a 20 milliards à se faire par an, on va taxer les plus pauvres, alors qu'on pourrait aller chercher de l'argent.
À d'autres solutions,
non,
sans doute plus complexes.
Je veux juste
Je veux juste poser un dernier chiffre. Moi, je veux bien entendre que les milliardaires s'en vont, les milliardaires fuient la France. Il n'empêche que il y avait 67 milliardaires en 2014, il y en a 147 aujourd'hui.
Tant mieux.
Et ben voilà, donc réjouissez-vous.
Vous préférez avoir plus de pauvres.
Mais maintenant, la question que je pose, est-ce que les classes moyennes dans le même temps se sont autant enrichies?
Mais en fait, vous savez,
comment
fonctionne l'économie? L'économie, il faut de l'argent. l'argent. Il faut de l'argent pour investir, il faut de l'argent pour embaucher, pour innover. Donc heureusement, plus il y aura d'argent et plus ces entreprises se porteront bien, plus elles pourront embaucher.
Oui, ben
plus,
enfin...
En plus, ce sont des recettes fiscales qui rentrent. C'est là où vous trompez. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut mieux avoir un Bernard Arnault en France.
Mais ça, c'est la théorie du ruissellement. Même Emmanuel Macron, il y croit plus.
Et Madame
Bernard Arnault, il y croit plus.
Bernard Arnault. Attends juste un truc. Bernard Arnault.
Il paye 5 milliards d'impôts par an, Bernard Arnault.
Bernard Arnault, Meyer Bettencourt, etc. Je veux bien qu'ils produisent des choses extrêmement importantes pour la France, mais enfin, c'est pas non plus de la grande industrie productive. C'est du luxe. C'est du luxe.
Et alors, juste dans cette émission.
Et mon shampoing, moi, je me suis lavé avec un shampoing L'Oréal ce matin à 4,50€. C'est pas du luxe.
Et t'as des très beaux cheveux.
Dans cette émission, tous les jours, on parle du fait que la France est fracturée, que les gens ne contribuent plus à l'effort collectif, à l'effort national. Les premiers à faire sécession avec le peuple, c'est les ultra riches et les grandes fortunes. C'est eux qu'on doit réinsérer socialement. En fait, ces gens-là, ils préfèrent être malheureux en Belgique que heureux en France en participant à leur pays. Et en contribuant
à... s'ils sont malheureux.
Je t'assure, ils préfèrent aller dans des paradis fiscaux
heureux,
de riches, et à s'enfermer dans des ghettos.
C'est ce qu'on appelle l'impôt confiscatoire. Si on vient te confisquer ton argent, tu fous le camp.
C'est sûr que monsieur Arnault...
Les retraités font pareil maintenant.
Pour une fois, je vais faire là en même temps. Moi, je dis coupons la poire en deux entre vous. Moi, je veux que les classes moyennes payent 25% d'impôts, comme les riches. Voilà, je ne veux pas qu'on fasse payer plus les uns et moins les autres. Je veux qu'on paye tous 25%.
Voilà,
ça veut dire que moi, par exemple, la CAF, je l'ai déjà dit, il n'y a pas à avoir 100 milliards de dépenses à la CAF.
Qui paye le déficit?
Je m'en fous. Il y a des gens, on ne devrait pas leur donner des allocations. Il y a des allocations, il faut tailler sérieusement
Tout le paradoxe de cette histoire, puisque vous parlez de la Belgique. Tout le paradoxe de cette histoire, c'est que ces ultra riches ou ces riches, ou comme Olivier l'a dit, qui ne cessent de monter, effectivement, d'abord parce que c'est la bourse qui aide, c'est que, en fait, ils ne font rien d'illégal.
Non.
Ils circulent dans une Europe et avec des capitaux que les politiques eux-mêmes ont voté.
Et oui,
d'accord. Ensuite, les avocats fiscalistes eux-mêmes, ils disposent simplement d'un code.
Oui.
Et ils utilisent des dispositions fiscales qui ont été votées légales par les députés. Donc aujourd'hui, si tu veux, tout le paradoxe, c'est que ce sont ces mêmes politiques qui, plutôt que d'essayer de faire des économies ou de réharmoniser peut-être l'Europe, ça peut se discuter, préfèrent instaurer des taxes. Si tu veux.
Qui sont vraiment les dirigeants qui sont élus par les classes moyennes? Pas grand monde. Il y a beaucoup de dirigeants, ils ont été mis là aussi beaucoup par les grands patrons,
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la classe moyenne s'appauvrit? La classe moyenne s'appauvrit parce qu'on n'arrive pas à monter les salaires à cause de quoi?
Des cotisations sociales et des impôts.
Taxes et des impôts.
Et elles payent toujours l'impôt.
Il vaudrait mieux, si tu veux, puisqu'en ce moment, tous nos responsables politiques ont à la bouche le mot révolution. Je me souviens qu'il y avait même un candidat qui avait parlé de révolution fiscale. Il y avait même un homme de gauche qui avait parlé de ras-le-bol fiscal à une époque. Donc il vaudrait mieux plutôt poser sur la table la révolution fiscale, faire en sorte que les gens puissent mieux gagner leur vie. Si tu gagnes mieux ta vie, tu payes un peu plus d'impôts, effectivement. Mais c'est surtout ça aujourd'hui.
Face à la colère fiscale, quelle a été le grand tour de passe-passe? Nous faire la prélèvement à la source. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, on aurait fini d'arrêter. Et moi, j'encourage certains artisans, excusez-moi, ça va peut-être être ou jadis, ou je sais pas quoi. Non, mais moi, j'encourage certains artisans à arrêter de payer l'URSSAF, etc. Parce qu'il y a un moment, aujourd'hui, tu peux plus. Le consentement à l'impôt, il existe de facto puisqu'on te prend à la source.
Donc, on est tous d'accord pour dire le problème, c'est pas de continuer à inventer de nouveaux impôts.
Exactement.
Le problème, c'est comment faire pour qu'on paye tous moins d'impôts. Et je pense, sincèrement, tu dis oui, ils vont partir en Belgique. Mais tu interroges beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français qui aimeraient bien se barrer et qui aimeraient bien. Il y a plein d'artisans, ils peuvent pas, bien sûr, mais qui aimeraient bien se barrer de France parce qu'ils ont marre.
Dans un instant,
c'est pour Emmanuel Delunier, ça.
On va en parler avec Christophe. Christophe, il est chef d'entreprise, il est du côté de la Haute-Savoie. Et quand on dit taxe, il a des poussées d'eczéma. Il aimerait mieux qu'on parle plutôt d'économie aussi. Donc Christophe avec nous dans un instant. Et Si vous voulez gagner un peu d'argent facilement
et qui n'est pas fiscalisé,
exonéré d'impôts, eh bien demain vendredi 13, ça sera possible pour vous, gagner 13 000 euros. Vous gratterez l'un des tickets et vous pourrez gagner jusqu'à 13 000 euros. Pour ça, il faut envoyer chance par SMS au 732 16, chance par SMS au 732 16. Vous jouez, vous gagnez, vous avez 5 minutes. Dans un instant, l'une des députées qui porte cette taxe Tuchman, c'est Clémentine Autain, il sera avec nous, et puis Christophe, chef d'entreprise en Haute-Savoie, il est 11h15.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. RMC, Charles Magnin.
On se retrouve tout à l'heure à 5h en direct pour toute l'info, toute l'actu évidemment, mais aussi de l'humour, des débats, de l'humeur. Et vous, au 32-16, toute l'équipe de Charles Matin autour de moi, Géraldine Demory, Emmanuel Lechypre, Anthony Morel, et vous, à tout moment, rendez-vous à 5h sur RMC.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Retrouvez BFM TV sur le canal 13. Pour une info toujours plus riche, faites le 13. Pour une info toujours plus indépendante, faites le 13. Pour une info partout, tout le temps, sur tous les terrains, faites le 13. Pour une info à votre image, faites le 13. Pour l'info, faites le 13.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme, avec Jérôme Roten.
2 heures de débat foot, autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match, avec la Dream Team Foot RMC.
Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon.
Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Alors, cette taxe Zuckman pour faire payer les ultra riches qui payent au moins 2% de leur fortune en impôts, elle va peut-être passer. Faut-il qu'elle passe, oui ou non? Dans un instant, Clémentine Autain avait. Avec Clémentine Autain avec nous, et ensuite Christophe, chef d'entreprise. Bonjour Clémentine Autain.
Bonjour.
Députée les écologistes de Seine-Saint-Denis. Réexpliquez-nous le principe rapide de la taxe Zuckman alors. Et est-ce qu'elle a des chances de passer?
Alors le principe est simple, c'est de taxer à 2% le patrimoine des ultra-riches, c'est-à-dire de ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros de patrimoine, en gros ce sont les milliardaires, parce que nous faisons le constat qu'il y a un phénomène d'échappement à l'impôt des ultra-riches qui contourne en fait notamment l'impôt sur le revenu en se payant par d'autres mécanismes, en créant des holdings, et pour éviter que ces ultra-riches contribuent moins que vous et moi, eh bien il faut aller saisir une partie du patrimoine, c'est-à-dire le taxer. Alors on le taxe à 2%, c'est une proposition modeste, et en même temps on voit qu'elle peut rapporter aux caisses de l'État entre 15 et 25 milliards d'euros, selon les calculs de Gabriel Zuckman, qui est un grand économiste et dont le nom de la taxe vient, hein, la taxe Zuckman.
Ça peut passer cette mesure ou pas alors?
Elle est passée à l'Assemblée nationale, oui. Nous l'avons déposée avec ma collègue Eva Sass, dans le cadre de notre niche parlementaire du groupe social et écologiste. Et précisément, nous avons obtenu une victoire à l'Assemblée nationale. Les macronistes sont peu venus voter.
J'ai quand même entendu Monsieur Zuckman lui-même dire que pour les licornes, par exemple Mistral AI, Arthur Mensch, etc., qui sont des entreprises qui n'ont que des valorisations en bourse et donc pas de la réelle richesse, même lui dit oui, c'est marginal, mais ça posera un problème. Il faudra y remédier sur la question de la taxation de cet outil de travail.
Vous taxez les biens professionnels, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait l'argument qui était avancé au début de manière un peu obsessionnelle par en fait ceux qui sont opposés à l'idée de faire davantage contribuer les ultra-riches. Je dirais à leur juste part, Alors, juste part, permettez-moi un chiffre. Quand on cumule les taxes, les impôts sur le revenu, les cotisations sociales, la majorité des Français paient 50%
c'est ça, le scandale.
D'impôts, de taxes.
Hein, il est là,
et
le
les
scandale.
Ultra-riches en payent 27%. C'est ça, le scandale. Donc, je viens au licorne.
Non, le scandale, c'est qu'on paye 50%. Madame Autain, vous devriez plutôt vous battre pour que les Français payent moins d'impôts, parce que là, c'est la spoliation. Quand on prend 50% de, ce qu'on, de nos revenus, c'est quand même énorme. Et il n'y a quasiment aucun pays au monde qui fait ça. Vous devriez vous battre sur ça, parce que votre taxe Zucman, d'ailleurs aucun pays au monde l'a mis en place non plus. Non mais vous devriez vous battre là-dessus plutôt, sur les 50%.
Non,
moi je suis pour moins de TVA, mais plus de taxes sur les ultra-riches. Parce qu'en réalité, l'impôt, et c'est tout un sujet que nous devons traiter dans notre société, c'est ce qui permet de servir nos services publics, c'est ce qui fait que nos hôpitaux peuvent tourner, c'est ce qui permet d'avoir des lignes de chemin de fer, c'est ce qui permet de faire vivre nos écoles. Donc,
dans les autres pays, il y a ça aussi.
Avec tout ce qu'on paye, ça ne tourne pas bien pourtant.
Oui, mais madame Autain,
je suis bien d'accord avec vous.
Madame Autain, votre chiffre...
Je ne peux pas répondre ni sur les licornes, ni sur on en paye plus. Donc, je reviens sur les licornes, qui n'est pas un bon argument, au sens où il y en a très peu, et que dans notre loi, telle que nous l'avons rédigée avec Eva Salt, il y a un dispositif spécifique pour ceux qui n'auraient pas la liquidité. Donc, cet argument n'est pas valable pour ne pas voter cette loi de la part des sénateurs.
Vous confirmez bien que c'est une taxe sur les biens professionnels. Donc, on va taxer les biens professionnels.
Comment quelqu'un peut s'acquitter sur une entreprise qu'il détient avec les milliards que vous évoquez?